Eh bien, bonsoir à tous, c'est Jean-Pierre, comme chaque mois, toujours aussi content de vous retrouver. L'émission vous plaît, on le sait, on a des retours très positifs. Vous savez qu'elle est particulièrement dédiée aux personnes qui ont une problématique de dépendance aux stupéfiants, à l'alcool, aux médicaments. Mais il nous arrive aussi de traiter, bien sûr, des problèmes, enfin d'orienter un petit peu les gens qui ont des problèmes de boulimie, d'anorexie, de dépenses compulsives. On vous donne généralement un site pour avoir ce genre de renseignements. Donc il vous suffit de taper « groupe en 12 étapes à Paris » sur n'importe quel moteur de recherche. Et puis vous aurez toutes les associations qui fonctionnent selon le modèle des alcooliques anonymes. Mais le but ultime aussi de cette émission, c'est bien sûr de recueillir vos questions. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir pour la deuxième fois Monsieur Jean-Paul Bruneau, pardon, qui est président fondateur d'une association qui a été créée en 1987 dans le Val d'Oise. Jean-Paul Bruneau est un ancien policier de la brigade des stupéfiants qui a très vite compris qu'il était plus intéressant de soigner les gens plutôt que de les mettre systématiquement en prison. Donc il s'est renseigné, il a créé son association, il s'est formé. Il a formé aussi d'autres policiers qui avaient la même vision que lui dans ce domaine. Donc on va avoir vraiment un partage extrêmement riche sur ce parcours. Et puis on va essayer aussi de vous donner des solutions, puisqu'on sait que les problèmes de stupéfiants se développent de plus en plus dans les écoles, à la sortie des écoles. On parle même un peu de légalisation des produits, ce qui est assez dramatique. Et puis on va parler aussi un peu des prémix, des alcools, enfin des alcooliers qui font des produits qui sont destinés à séduire nos jeunes. Et puis on va parler aussi donc de la prévention au milieu scolaire, bien sûr, qui est organisée aussi par Jean-Paul Bruneau, et puis du mécénat de sécurité. Alors Jean-Paul va développer le mécénat de sécurité, c'est-à-dire qu'on a créé un partenariat avec des entreprises. Jean-Paul Bruneau, je suis très heureux de vous accueillir. Vous avez répondu au pied levé comme d'habitude, et vous êtes toujours dévoué aux autres depuis des années. Alors donnez-nous un petit flashback sur votre compétence et comment elle est née.
Alors, bonjour à tous et puis merci de cette invitation. Alors, le flashback, c'est de longues années, bien sûr, d'exercice au contact des publics fragilisés par l'usage des produits. Et de 1980 à 1987, je faisais déjà de la prévention dans le milieu scolaire en tant que PFAD, policier formateur antidrogue, mais également, donc, je travaillais à la brigade des stupes sur un département où, bien sûr, les problèmes de toxicomanie en proche banlieue étaient assez criants. Et très vite, à force de rencontrer ce public très marginalisé, souvent donc esclaves du produit et commettant de nombreux délits pour pouvoir acheter leurs produits, et faisant également, provoquant beaucoup d'accidents sous effet des produits. Donc ce public est souvent au contact du policier dans des situations quelquefois dramatiques et surtout en garde à vue, en manque. Donc c'est là où on a souvent des confidences sur le vécu du toxicomane. Et lors de l'audition, c'est là où, en fait, l'individu se lâche. Et quand on fait l'enquête de personnalité, on voit que la problématique vient souvent de l'enfance ou d'une adolescence mal vécue, avec des troubles du comportement qui sont liés souvent à des émotions qu'on n'arrive pas à maîtriser, ou des chocs affectifs, ou des traumatismes dont on ne veut pas parler, parce qu'on n'est pas encore mûr pour en parler, et le produit prend une place. Soit il vient gommer, effacer une douleur ou un mal-être, et ça va crescendo, et il faut augmenter les doses, puisque le corps s'habitue aux effets, et l'accoutumance et la dépendance s'installent. Donc arrive le moment où la liberté n'existe plus, on devient l'esclave du produit, et à tout prix, il faut trouver l'argent et le produit. Donc ça m'a conduit très vite à essayer d'en aider quelques-uns qui me paraissaient très sincères dans leur désir de quitter leur addiction. Donc très tôt, ça m'est arrivé donc même d'en conduire dans des lieux de cure et plutôt, disons, d'arranger l'affaire, entre guillemets, mettre sous
le plan juridique, quoi.
Sur le plan juridique. À savoir que quand on fait dire à un toxicomane dans son audition pour usage-revente, par exemple, ou usage tout court, qu'il est désireux de se soigner et qu'il a déjà un rendez-vous dans un centre de cure, la loi de 70 prévoit, dans ce cas-là, donc, une obligation de soins, ce qu'on appelle une injonction thérapeutique, ce qui lui permet de ne pas être poursuivi et d'échapper à toute sanction. Donc, à partir du moment où la personne signe qu'elle est en cours, disons, d'une démarche thérapeutique et qu'elle a une date, en tout cas, une date de rendez-vous ou d'admission dans un centre de soins, donc c'est très, très facile à obtenir par téléphone et c'est souvent pendant l'audition. Donc, ça m'a permis d'en envoyer entre 80 et 87, 37 exactement, puisque j'avais fait un bilan sur les résultats de cette initiative. Et sur les 37, 8 avaient réussi à maintenir leur abstinence. Et en 87, c'est sur leur, je dirais, leur demande qu'on a créé les deux premiers pavillons d'accueil pour aider les sortants de cure. Pour beaucoup, c'est clair que retourner dans le milieu ambiant, parce qu'ils ne connaissent personne d'autre pour les aider, la rechute est assurée pour beaucoup. Ils sont trop fragiles à la sortie d'une cure. Donc il faut
le milieu ambiant, ça veut dire la famille, ça veut dire les amis,
la famille, le quartier et le peu de moyens qui fait que ils vont être très vite récupérés par le milieu. Donc, créer 10 places d'hébergement pour un peu les protéger du milieu ambiant, ou leur permettre d'échapper un peu à la pression du groupe, et se retrouver plutôt avec des personnes abstinentes qui sortent de cure. Ça a été ma première démarche, avec toujours bénévolement, bien sûr, avec des parents, avec les 8 qui voulaient bien s'investir pour aider. Donc l'entraide qui a commencé. Et puis au fur et à mesure, on est passé à 25 places. On a eu des agréments pour l'hébergement. On a commencé à embaucher des salariés. Et progressivement, donc, on a fait connaissance avec des sortants d'une cure qui nous semblait originale, qui préconisait une abstinence, mais surtout un travail sur les émotions. Donc, ce centre.
Quelles émotions ? Ça serait bien peut-être les nommer pour qu'on puisse s'identifier.
Beaucoup de difficultés à gérer la timidité pendant l'adolescence, et si on n'a pas appris à gérer ça, sinon de les fuir à travers, enfin de fuir ce genre d'émotions qui génèrent de la honte, qui génèrent des peurs, qui génèrent aussi de la colère, mais de la colère contre soi, parce qu'on finit par ne plus s'aimer, ou on se dévalorise quand on perd la face devant les filles, par exemple, quand on est adolescent, et ça touche surtout les garçons, puisqu'il y a 8 hommes pour 2 filles, en général, dans ces comportements addictifs. Hein. Donc, beaucoup ont ces difficultés. Et puis, d'autres, c'est plutôt pour fuir un mal-être qui est d'origine liée à soit des problèmes d'enfance, de maltraitance, de choc affectif ou de manque affectif. Et ce manque d'assurance, ce manque de confiance en soi qui vient derrière, ces difficultés à aborder l'adolescence, font que quand on rencontre le produit, il peut prendre une grande place dans tout ça. Et pour utiliser comme une béquille chimique, ça devient très vite un esclavage et en tout cas un besoin.
D'accord. Alors là, vous avez rassemblé donc un noyau de volontaires au sein de l'association, voilà. Aider le bénévole.
Des bénévoles au départ. Il y a toujours beaucoup de bénévoles autour de l'action, bien sûr, mais il a fallu se professionnaliser pour être encore plus opérant, être plus efficace, être plus en relation avec les problématiques qui sont multiples chez les polytoxicomanes notamment, et venir les aider le plus vite possible à retrouver une autonomie et surtout retrouver leur place dans la société avec un travail et un logement. Donc ça veut dire s'entourer de professionnels sur le plan social, sur le plan thérapeutique et aussi de partenaires qui viennent compléter l'action de l'association pour le travail et les logements surtout. Donc c'est toute la dimension de DVO aujourd'hui avec toujours des actions de prévention. À l'échelle associative, on se déplace sur tout le territoire français. Donc,
oui, l'association est devenue, a grossi au point de devenir nationale. C'est-à-dire que vous couvrez l'ensemble du territoire français.
Au départ, c'était local, départemental, et puis très vite, les demandes sont venues un peu de toutes parts. D'une part parce que on fait partie d'une fédération nationale d'associations de prévention où je suis allé former des acteurs de prévention sur tout le territoire. Donc très vite, cette organisation à l'échelle nationale fait que on a été demandé ça et là, et on accueille également donc des sortants de cure venant de toute la France. Donc que ce soit prévention ou aide à la réinsertion, donc cette action s'est très vite transformée en action nationale. Donc depuis 2010, on a changé nos statuts pour devenir association nationale EDVO et on demande une reconnaissance d'utilité publique pour permettre au mécénat de venir en soutien de nos actions, du fait...
Mécénat d'entreprise, particulièrement.
Le mécénat d'entreprise, bien entendu, puisque je dirais que on peut apporter un service en échange du don que peut faire l'entreprise ou la collectivité qui a besoin de nos services, que ce soit en prévention, que ce soit en formation d'acteurs relais dans l'entreprise, pour venir un peu au contact de ceux qui ont des problèmes liés à l'alcool ou à la consommation de produits et qui risquent de perdre leur travail. Donc,
les produits, là, ça peut engendrer, bon, là, ça peut être la cocaïne, le hashish, l'héroïne, mais c'est aussi les médicaments. Il y a des employés qui peuvent consommer de façon abusive des médicaments. Ça, vous traitez de ça aussi?
Tout à fait. Dans la mesure où on a à EDVO, donc une personne qui est chargée du suivi ambulatoire, des personnes qui souhaitent trouver une solution à leur problématique, que ce soit une consommation abusive de médicaments ou non prescrite par un médecin, que ce soit l'alcool, que ce soit les stupéfiants. Dans l'usage professionnel, on sait que arrive le moment où l'employeur va devoir trancher soit face à une perte de rentabilité, en termes d'emploi, c'est clair que ça crée des problèmes, du genre aussi absentéisme ou accident pendant le travail. Donc l'employeur est souvent contraint.
Soit il est responsable d'ailleurs même.
Oui, aujourd'hui, donc la responsabilité de l'employeur est engagée et il doit aussi anticiper par rapport au risque, et notamment avec le registre unique, il doit prévoir tous ces risques et il doit aussi en limiter l'impact sur son personnel, sur son entreprise, pour la sécurité, bien sûr, de l'ensemble de ses salariés.
Un petit peu comme le risque incendie, où voilà, il faut prévoir, détecter, informer sur ce document unique, c'est ça? Vous avez dit le registre unique ou le document unique?
Le registre unique est un document qui est un peu l'évaluation de la situation, des risques et l'anticipation en prenant des mesures pour réduire cette notion de risque. Donc nos actions de prévention auprès des personnels ou la formation d'acteurs relais dans l'entreprise pour justement être au contact de ceux qui ont des comportements à risque peut permettre à l'employeur donc d'échapper un peu à ses responsabilités d'un côté, et puis on peut aider bien sûr les salariés qui sont concernés et qui se rendent compte que leur situation professionnelle est dans les conséquences qu'on peut imaginer, soit un licenciement à la clé ou des avertissements. Donc ce salarié peut se soigner et il y a bien entendu des systèmes aujourd'hui de prise en charge, bon, l'arrêt maladie, mais également pour nous en tout cas le souci de l'amener aux soins et de l'amener surtout à reprendre son poste avec de nouveaux comportements et l'abstinence. Donc l'accompagner pour un retour à l'emploi et de façon à ce que tant le salarié que l'employeur ne subissent pas les conséquences trop longues de ces comportements à risque sous effet des produits modifiant le comportement.
C'est tout bénéfice pour tout le monde en vérité, parce que l'employé retrouve sa place au sein de l'entreprise. Il va être requalifié au poste. Et puis, je pense que l'employeur, surtout en province, par exemple, mettre dehors quelqu'un qui a une problématique de ce type-là, c'est pas une très bonne image pour l'entreprise. Donc, c'est quand même une belle action.
Tout à fait. Et dans le contexte de ce mécénat de sécurité, nous avons pour principe de faire une évaluation avec le chef d'entreprise ou le responsable d'une collectivité territoriale pour l'amener à prendre toutes les dispositions avec notre partenariat et dans les conditions qui lui conviendront, bien entendu. En échange, bien sûr, de ce mécénat, je pense que nous avons une capacité d'apporter non seulement de la prévention ou de la formation, mais également une prise en charge individualisée de chaque salarié qui serait concerné. Donc c'est un peu le plus, en échange bien sûr de ce financement qui nous permettra, en tout cas pour EDVO, de créer des places supplémentaires, puisque nous sommes à 26 places agréées et on voudrait passer à 35 pour satisfaire un peu les demandes qui sont en souffrance actuellement.
Est-ce que l'entreprise peut, d'une certaine manière, défiscaliser de cette manière-là? Elle y trouve son compte aussi,
bien
en
sûr,
dehors du service rendu?
Donc avec le mécénat aujourd'hui, donc on peut bénéficier d'avantages fiscaux importants, puisqu'on peut dégager jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Et la fiscalité donc permet d'être dispensé sur 60% du don en fiscalité. Donc c'est très avantageux. Et puis ça donne une image à l'entreprise sur le plan humanitaire. Ça donne également un certain regard des employés sur l'action de l'employeur dans cette dimension.
Qui prend soin de
son personnel. Prend soin un peu de son personnel et de la sécurité en règle générale. Donc ça touche pas que les personnes qui sont sous addiction ou sous comportement à risque, ça touche aussi l'ensemble du personnel et leur famille.
D'accord. Mais il est possible aussi que le DVO reçoive des dons de personnes reconnaissantes ou qui ont envie de contribuer à cette action?
Oui, toute personne peut faire des dons et comme nous sommes une association faisant de l'hébergement, donc on peut défalquer jusqu'à 75% du don de ses impôts. Donc c'est une façon, disons, de contribuer à l'intérêt général puisque notre structure a besoin de ces fonds pour se maintenir et se développer. Dans la mesure où l'État se désiste de plus en plus des financements des structures comme la nôtre, donc on a absolument besoin de l'aide de fonds privés et notamment de tous les donateurs, quels qu'ils soient.
On peut nommer les donateurs éventuellement? Il y en a, je crois qu'il y a la Fondation Vinci.
C'est ça. Donc nous avons cette année l'aide de la Fondation Vinci qui nous aide à créer deux places supplémentaires. Nous avons donc une société dans l'alimentaire qui nous donne 30 000 euros. Donc un magasin, les nouveaux commerçants donc du Bourget. Donc ce directeur est très sensible à ce que nous faisons. Et puis on a la Fondation Cévennes, donc qui nous aide pour financer le poste d'une personne qui est chargée du suivi ambulatoire, donc pour aider les personnes en grande difficulté à trouver une solution à leurs problématiques. Donc ces dons, plus des dons de particuliers qui sont fidèles à l'action que nous menons, donc qui tous les ans renouvellent des dons et des adhésions importantes pour le maintien donc de cette structure qui a grand besoin, disons, d'un soutien, je dirais, populaire aujourd'hui.
Oui. Ok. Alors, on va rentrer un petit peu maintenant dans... Là, on a vu le fonctionnement, on a vu la création et la filiation aussi, enfin la mission, entre guillemets, de cette association. Alors, si on regarde un petit peu maintenant, si on est un petit peu focus sur l'action, principalement, comment on fait pour vous contacter? On peut vous téléphoner pour que vous vous déplaciez dans les établissements scolaires, par exemple, puisque vous avez remarqué que si on prenait un petit peu l'information à la source, avec des enfants, des adolescents de 3e, 4e, qui vont être sollicités, mais qui ne sont peut-être pas encore touchés directement, mais qui ont été approchés peut-être par des dealers ou par des gens qui consomment un peu autour d'eux. Donc, comment vous vous y prenez? C'est un cours qui vient s'insérer dans le quotidien des élèves? Comment ça se passe?
Alors, donc, la majorité des demandes se situe sur les 3e, 4e dans les collèges, 1e, 2e dans les lycées. Ce sont donc des publics qui sont repérés soit par le chef d'établissement ou le service donc de suivi de la scolarité, infirmières aussi, très souvent, qui font ces demandes. Alors, on essaie de regrouper deux classes sur 2 heures. Dans ce programme d'intervention, il y a une partie d'information pour positionner le jeune comme acteur dans son environnement. Mais dans un environnement assez large, puisqu'on part de la géopolitique pour arriver à ce qui se passe dans son établissement ou dans son environnement proche. À savoir, quand on commence avec un joint ou quand on donne un peu d'argent à un usagère-vendeur, qui est souvent un copain au départ, le jeune ne se rend pas compte qu'il est en train de financer les guérillas dans les pays producteurs, puisque la majorité de l'argent donné en échange de drogue sert à financer des armes et des gens qui portent ces armes et qui profitent de leur pouvoir, je dirais, au moyen de la violence pour imposer à des peuples les contraindre à produire les plantes qui seront transformées sur place, bien souvent, en produits négociables sur toute la planète. Donc il y a une vingtaine de pays sur notre planète producteurs de drogue, et tous ces pays sont entre les mains, de guérillas. Si on parle des FARC en Colombie ou des talibans en Afghanistan, tout le monde connaît l'histoire et le lien entre la production de drogue et le financement des armes de ces gens et leurs actes un peu, réjouissants pour l'avenir de notre planète. Alors les jeunes ont besoin de savoir tout ça, de savoir un peu comment se passe ce trafic et à qui profite le crime. Donc fumer un joint, ce n'est pas innocent, il faut responsabiliser, mais également les amener à prendre conscience que ce sont des produits psychoactifs qui vont modifier les comportements, qui vont perturber leur scolarité et diminuer leur capacité, en tout cas, de mémorisation, de création, voire même pour s'investir, faire des efforts, puisque ça ralentit un certain nombre de fonctions. Alors on explique un peu quelles sont les actions de toutes ces drogues sur le cerveau.
Vous pouvez nous en dire un mot, là, maintenant, par exemple? Parce que tout le monde pense, plus ou moins, que finalement, un joint, c'est naturel, ça pousse, c'est un peu comme la vigne, et en fait, c'est pas tout à fait ça. Ça a une incidence sur le cerveau, vraiment, ça fait des lésions, les conséquences, en vérité, c'est quoi?
Le cannabis est considéré comme une drogue lente. On l'a longtemps baptisé drogue douce, et on ne peut pas la comparer avec des produits tels que le tabac, par exemple, qui aujourd'hui est le produit le plus surveillé, je dirais, dans le contexte sanitaire, puisqu'on essaie de réduire la liberté d'en consommer. Et puis il y a des produits interdits comme le cannabis qu'on voudrait dépénaliser, donc encourager un peu à la consommation, quelque part, en banalisant ce produit. Alors que c'est une drogue, je dirais, qui va, sur le plan social, contrarier l'évolution de beaucoup de vies, et surtout la scolarité. C'est une drogue qui, au niveau du principe actif qu'on appelle le THC, va perturber 5 zones du cerveau, et en particulier la mémoire, et la mémoire immédiate surtout. Donc quand on est scolaire, c'est vraiment pas le bon produit pour stimuler ces neurones, bien au contraire, ça va les endormir. Au point que on finit par être en échec scolaire quand on est avec des difficultés scolaires, ça ne peut qu'aggraver ce fonctionnement, en tout cas ses performances, et puis on finit tout simplement par rêver sa vie et à tenir les murs, et ça c'est l'image, je dirais, type du fumeur de joint qui pense faire plein de choses mais dans sa tête seulement, et ça lui coupe un peu l'envie de bouger, de prendre la vie en main, et il va un peu subir les choses, et à force d'être plutôt dans l'échec, eh bien il se contentera simplement de fumer un peu plus. On sait également qu'il y a une corrélation entre usage de tabac et alcool, ça accélère les mécanismes, et des consommations bien sûr d'alcool vont très vite rejoindre la consommation de cannabis et l'augmentation des prises de tabac, bien sûr.
Ah, ça vient s'associer, en fait, se superposer.
Se superpose et, disons, accélère les principes. Ça casse un peu les limites aussi, disons, de sécurité un peu avec l'alcool. C'est-à-dire que quand on commence à fumer et qu'on boit de l'alcool, dès que les
effets... Fumer
du cannabis sous forme d'herbe ou de résine, peu importe. Donc le principe actif du cannabis va rendre beaucoup moins vigilant, va donc réduire la vigilance, certes, mais va surtout faciliter le passage à l'ivresse et casser un peu ces réflexes d'autodéfense dès que l'ivresse arrive. Donc on va aller vers des consommations abusives et répétitives. Donc c'est un phénomène, disons, plutôt accélérateur. Et en matière d'accident, quand on conduit un deux roues, par exemple, le fait de fumer et de boire, c'est entre 10 et 15 fois plus de chances d'avoir un accident. Donc aujourd'hui, on retrouve aujourd'hui beaucoup de conseils en prévention routière dans ce domaine, puisque c'est évident qu'il y a un nombre de morts chaque année détecté et croissant par dépistage, mais la prévention concerne aussi les scolaires. Dès qu'ils sont utilisateurs d'un deux roues, par exemple, il faut aussi aller vers ça. La grosse problématique, c'est surtout le manque d'investissement dans son développement personnel, dans sa scolarité, dans tout ce qu'il peut découvrir en parallèle de sa scolarité. Et le fait de fumer va réduire ses capacités de découverte, de gestion d'autres activités, telles le sport. Un fumeur finit par arrêter le sport et se contenter simplement de fumer. S'il s'investit dans des activités qui demandent un peu d'effort et de concentration, le cannabis va démotiver, va aussi réduire ses capacités. Notamment, sa sensibilité va être un peu étouffée, un peu sclérosée par la présence du THC qui va s'accumuler surtout dans le système nerveux central. C'est la drogue la plus lente, c'est la drogue la plus difficile à éliminer. Si on fume un joint, il faut au minimum une semaine pour que les effets, le principe actif, soient évacués. Et si on fume un joint, on peut retrouver des traces pendant environ 3 semaines dans les urines. Donc on sait aujourd'hui que c'est une drogue qui est certes moins agressive que l'alcool ou la cocaïne ou l'héroïne, ça n'a rien à voir, donc chaque produit étant différent. Mais à la grosse différence du tabac, c'est un produit qui modifie le comportement, qui va ralentir les fonctions et qui va surtout démotiver. Donc c'est vraiment pas le produit qu'il faut utiliser, sachant que ça a un effet long. Et à force de fumer, si on fume par exemple toutes les semaines, on commence à accumuler ce fameux THC dans son cerveau. Donc ça vient tout doucement, on se rend pas compte de la différence. Et les changements de comportement, c'est souvent les parents qui vont s'en apercevoir. Les changements sur l'humeur, une certaine nonchalance, une certaine négligence, difficulté à se lever, difficulté à se bouger, à s'investir dans la vie, des troubles de la mémoire, donc les résultats scolaires vont plutôt être en régression. Donc les parents vont s'en apercevoir très tard en général et vont mettre ça sur le compte de la crise d'adolescence. Donc les parents ont besoin d'être très vigilants là-dessus et surtout d'en discuter, d'en parler pour essayer de faire l'inventaire un peu de ce qui se passe dans l'environnement de cet adolescent. Et on est là aussi pour les aider puisque nous avons un point écoute à l'association, soit par téléphone, soit sur rendez-vous. Donc, je pense qu'on pourra donner les téléphones de la structure, donc, et bien entendu, notre site internet où on donne un certain nombre de conseils aux parents avec des documents qui sont appropriés, justement,
à la situation. Puisqu'on y est, vous faites bien de dire, de le rappeler. On va donner donc le numéro de téléphone de l'association EDVO. Alors, à vos stylos et vos papiers. Donc, EDVO 01 34 28 64 50. Pardon. 01 34 28 64 50. Et, monsieur Bruno, vous avez accepté aussi de donner votre portable. Donc, 06 09 21 26 92. 06 09 21 26 92. On peut vous joindre, laisser un message. Oui. Probablement qu'après l'émission, il y aura beaucoup d'appels. La fois dernière, il y avait eu beaucoup d'appels toute la semaine, pratiquement, qui a suivi votre intervention. Donc, on peut vous joindre et puis vous rappeler systématiquement. Vous avez parlé d'un site, donc ça, je vous laisse le soin de l'annoncer.
Bien, vous tapez tout simplement EDVO sur votre moteur de recherche et vous verrez, nous avons plusieurs sites qui parlent.
Oui, très bien référencés et ça sort en premier.
Sans complication, EDVO est facile à trouver. Donc vous verrez que non seulement il y a des conseils, des documents à lire et à imprimer et à partager, vous avez aussi des témoignages de nos pensionnaires qui parlent un peu des conséquences liées à l'usage des produits. C'est aussi avec ces témoignages que nous allons au contact des jeunes dans le milieu scolaire. Comme je le disais tout à l'heure, dans ces 2 heures, il y a une partie importante bien sûr d'information pour rendre le jeune acteur dans son environnement, le sensibiliser sur les conséquences qu'il peut repérer sur lui ou sur ses copains ou ses copines dès qu'il y a usage notamment du cannabis ou de l'alcool. Mais on les aide aussi à repérer, par exemple, s'ils sont, disons, susceptibles de basculer très vite dans une addiction. Du genre, par exemple, on les sensibilise sur l'expérimentation de l'alcool. Un jeune qui essaie le premier verre de vin, le premier verre de champagne, s'il est attiré par le goût, s'il ne se contente d'utiliser ses papilles, et que dès que ça lui tourne la tête, il est plutôt récalcitrant à aller plus loin. Dès qu'il se méfie et qu'il n'aime pas les effets de l'alcool et qu'il se contente du goût, on peut dire que lui pourra éviter de basculer très vite dans les addictions. Cependant, si le premier verre de champagne, le premier verre d'alcool, c'est pas le goût qui l'intéresse, mais c'est l'effet. À chaque prise, sa recherche, si c'est l'effet et qu'il est attiré par cela, il est futur addict s'il se laisse aller dans des comportements répétitifs. Et c'est la même chose avec le cannabis, c'est la même chose avec beaucoup de drogues, et notamment le tabac. Si on est dégoûté par l'odeur du tabac et que ça ne fait rien sur le cerveau, bien que le tabac est un peu particulier, la nicotine... Aujourd'hui, elle est plus efficace qu'avant. Et je dirais même que les additifs de nos chimistes dans cette industrie du tabac, aujourd'hui, redoublent de génie pour faire que la nicotine est la drogue la plus rapide. C'est une drogue qui permet très vite de créer une mémorisation multifacette. Ce qu'il faut savoir avec le tabac, grâce à l'accélération des mécanismes, des principes actifs, fumer du tabac, la nicotine va tout de suite sur des petits récepteurs nicotiniques dans le cerveau et va faire produire un peu de dopamine, pas en excès, parce qu'on va pas rire comme avec le cannabis, on va pas être hyper détendu non plus. Donc la fabrication de dopamine dans le cerveau, c'est un petit impact la nicotine, mais comme c'est immédiat, on va mémoriser tout ce qui se passe au moment de la prise de ce produit. Par exemple, si on prend son café et qu'on fume sa cigarette, la première cigarette et sa tasse de café, bien on va mémoriser le goût, l'odeur du café et le moment, parce que le petit effet récompense dans le cerveau est connexe, est immédiat, et bien entendu après, ce petit effet qui est mémorisé en lien avec tout le reste, il suffit de sentir une odeur de café ou de voir une tasse de café pour que le cerveau dicte un autre besoin, celui de la cigarette. Et ça devient un mécanisme, devient un geste associé. C'est la drogue la plus rapide, la nicotine. Elle fait un effet immédiat, alors que toutes les autres drogues ont un effet différé. C'est-à-dire que si vous prenez de l'alcool, avant que l'effet soit ressenti, il faut déjà que ça passe de l'estomac dans le sang. Donc il y a un effet retard, il y a donc un effet différé. Donc on ne va pas mémoriser les mêmes choses aussi avec cette immédiateté. Avec le cannabis, pareil, il faut que ça passe dans le sang et qu'il y ait suffisamment de THC au niveau du cerveau pour donc stimuler, provoquer cette euphorie au départ ou cet effet bien-être. Donc toutes les drogues ont un effet différé sauf le tabac.
Alors très bien, Monsieur Bruno, écoutez, c'est très clair. On va parler un petit peu à la reprise, on va faire un petit break, une respiration musicale. Alors je crois que vous aviez envie de présenter la musique qui va servir pour cette respiration musicale.
Oui, en 87, on avait l'idée, avec le premier malade dépendant que j'ai sorti un peu de la toxicomanie, Henri Guibé, l'artiste que tout le monde connaît, et une petite fille qui avait accepté de faire la voix de l'enfant. Donc on a fait un disque, bon, qui a été vendu à 2000 exemplaires en 1987, qui nous a permis d'avoir quelques fonds. Donc c'était une expérience faite au sein de l'association à son démarrage.
Eh bien, écoute, merci.
Le garçon.
Il est malade. Il est en manque. Il fumait des cigarettes pas ordinaires. De la douce, comme ils disent. Pire que du poison. Trop souvent. Mal dans son cœur, dans sa tête. Il cherchait d'autres planètes. D'autres gens.
Écoute, je sais plus où j'en suis. Faut que je parle à quelqu'un. J'ai besoin qu'on m'écoute un moment. Prends 5 minutes. Juste 5 minutes. Dans une vie, c'est pas long.
Regarde comme il est triste. Il a l'air malade. Il faut l'aider.
Ils disent tout ça, que c'est pas dangereux, qu'ils s'arrêtent quand ils veulent. Mais lui, hein, regarde où il en est.
Qu'est-ce qu'il est pâle? Il ne voit pas le soleil?
Le soleil, il veut pas le voir. Trop souvent, mal dans son cœur, dans sa tête, il cherchait d'autres planètes. Autre chant.
Écoute, cette fois-ci c'est la bonne. Il faut que tu m'aides, il faut que tu m'écoutes. Arrête-toi. Écoute-moi, donne-moi ma chance. J'ai envie de m'en sortir.
Papa, à moi, ça ne m'arrivera pas?
Je suis là.
Et lui?
Pour lui aussi. Bien souvent, le bonheur est dans ta tête. Cherche pas d'autres planètes.
Eh bien, merci. Vraiment, c'était une bonne idée, en fait, d'avoir fait revivre cette jolie chanson. Alors, on va prendre un auditeur. En fait, j'avais pas signalé qu'on pouvait appeler pendant l'émission, mais on va prendre un auditeur en ligne. En général, on les prend après l'émission parce que nous ne disposons que d'une heure et ça va très vite, une heure. Donc, nous avons Michel.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Juste une question très rapide pour pas couper la parole à Monsieur Bruno. Donc je vous écoute, c'est très intéressant. Moi j'ai une question qui peut paraître un peu rigolote, mais elle est quand même très sérieuse. On approche des élections. Si demain Monsieur Bruno était président de la République, imaginons, qu'est-ce que vous...
Il y pense en se rasant.
Pardon?
Il y pense en se rasant de matin.
Qu'est-ce que vous feriez, Monsieur Bruno, pour pallier à tous ces... Enfin, ce que vous pouvez faire, mais... Ou à pallier ces dealers, ces trafiquants, ces assister, enfin aider tout un peu ce que vous disiez à propos des jeunes. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous préconiseriez? Voilà ma question. Dans les grandes lignes, hein, bien sûr, parce que je vous demande pas un programme de président ce soir, mais dans les grandes lignes, peut-être ce qui n'est pas fait aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, alors c'est un
merci
peu...
Michel pour votre question.
Oui, donc j'ai pas l'ambition d'être président mais de la République, loin de là, mais je pense que comme tout policier, on est soucieux un peu de l'intérêt général. Et j'ai été longtemps formateur et même responsable de formation. Et j'étais à l'origine du nouveau module de formation des îlotiers, des polices de proximité. Et j'ai beaucoup regretté, en fait, que dans ce pays, on n'ait pas renforcé, plutôt que de supprimer, renforcé la police de proximité, qui vient au contact non seulement des jeunes au bas des immeubles, mais qui vient aussi au contact des familles pour gérer un peu les problèmes de proximité. Et je pense que si on avait plutôt continué et renforcé ça, on aurait dérangé les dealers, on aurait aidé grandement les familles en difficulté et on aurait pu donner quelques conseils aux jeunes qui se laissent aller, à tenir les murs, comme je disais tout à l'heure, à rêver leur vie. Et c'est plutôt au contact de ces jeunes en difficulté que on peut changer les choses. Donc un jeune qui va, bien sûr, aujourd'hui retrouver cette police de proximité, il va falloir beaucoup de temps pour remettre en place ce qui avait été construit avant. Il y a aussi la prévention. Il faut pas de deux discours du genre il faut dépénaliser, il faut légaliser, il faut donner la liberté de consommer. Ce discours est très ambigu. On sait pertinemment que un jeune, dès qu'on lui donne de la liberté, il va en prendre
davantage.
Si le cannabis n'est plus interdit, pour ceux qui jouent avec l'interdit, ils iront vers des produits un peu plus corsés. Et puis, ce qu'on leur dit, c'est que pour certains disent spécialistes, entre guillemets, donc prétendent que le cannabis est thérapeutique. Donc quand je vais dans une école et que on entend ce genre de choses, on sait bien que les médias peuvent véhiculer des idées comme celle-ci, alors que malheureusement le cannabis n'est pas un médicament et on ne peut pas prétendre soigner des gens avec le cannabis. Donc il faudrait que, en tant que dirigeant d'un pays, on puisse éviter de dire des choses aussi à lourdes conséquences déjà sur le plan de l'information, mais surtout qui vont induire en erreur beaucoup de jeunes qui pensent que c'est bon pour la santé. Le fait de consommer des produits également donc qu'on a banalisé, qui se retrouve en grande liberté, fait que non seulement les jeunes vont y toucher, mais si on dépénalisait, par exemple, il y aurait certainement beaucoup plus d'adultes à essayer pour voir ce que ça fait. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se permettre. On sait que l'herbe est entre 3 et 4 fois plus cancérogène que le tabac et que la résine est entre 7 et 10 fois plus cancérogène. Donc on essaie de freiner la liberté de consommer du tabac. Donc quand on parle des maladies du fumeur, ça concerne également le cannabis. Donc on ne peut pas être d'un côté en train de réduire les libertés et de l'autre côté en apporter d'autres. Donc il faut être cohérent et même si on doit renforcer la prévention dans tous les domaines, ça c'est un domaine prioritaire et qui mérite aujourd'hui plus d'attention et surtout de réduire l'impact de ces gens qui prétendent que de libérer est une solution. C'est un peu baisser les bras trop facilement. On sait aujourd'hui que la MILT, la mission interministérielle, a gagné quelques victoires, enfin a gagné en tout cas quelques points dans le domaine de la réduction des consommations et non pas l'inverse. Donc il y a moins de jeunes à faire l'expérience des produits stupéfiants, mais c'est grâce aux actions de prévention. Mais il faut aller plus loin. Mmh. Et puis la prévention, c'est aussi éviter les risques routiers. Et là encore, il y a des résultats qui ne sont pas négligeables. Donc c'est pas le moment de relâcher et c'est pas le moment de légaliser, en tout cas. Et aucun pays en Europe, en tout cas, n'a légalisé. Certains pays ont essayé la dépénalisation, c'est-à-dire ça reste interdit, mais on n'applique plus de sanctions. Et on voit très bien que ces pays ont très mal géré la situation, puisque beaucoup reviennent en arrière. Donc il y a de la désinformation aussi dans ce domaine.
Alors, Michel nous a posé une très bonne question, parce que tout à l'heure, vous me disiez hors antenne, Jean-Paul Bruno, que vous aviez eu quand même la visite aussi d'un adjoint direct du Premier ministre qui a été sensibilisé à votre point de vue et à votre action depuis toutes ces années. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de les remercier puisque il y a un dossier qui s'ouvre
Oui, je pense que le dialogue est ouvert et il l'est d'autant plus que vous avez une mission parlementaire en ce moment qui réfléchit sur une modification des lois dans ce domaine. Et cette mission parlementaire donc me fait le plaisir, disons, de m'entendre sur notre conception un peu de la lutte anti-drogue. Donc, là encore, si vous allez sur le site internet, vous avez, disons, notre argumentaire pour parler un peu de l'évolution de cette législation, ou en tout cas des mesures appropriées pour réduire l'impact des toxicomanies, et en tout cas du trafic en France. Donc, ce serait un peu long à développer, mais je pense qu'il faut encourager plutôt les structures qui, non seulement aide les toxicomanes à sortir de cette impasse, de cet esclavage des produits, et surtout pas faciliter l'usage des produits en oubliant qui fournit les produits. Donc, si on veut ouvrir, par exemple, des salles de shoot, comme malheureusement on l'a trop entendu ces derniers temps, il faut aussi penser qu'il y en a beaucoup qui veulent quitter tant la substitution que ces lieux de consommation, et on leur donne pas forcément tous les moyens pour s'en sortir. Donc il faut privilégier et surtout financer les structures, je dirais comme la nôtre, puisqu'on a beaucoup de difficultés à toucher des fonds d'État pour se développer, voire même se maintenir en termes de structures garantissant une réinsertion durable et progressive. Pour d'autres, c'est de les maintenir dans le produit en limitant les risques, certes, mais nous avons déjà 140 XAPA en France, donc des centres spécialisés qui s'occupent de ces publics. Donc il suffit simplement de renforcer éventuellement la prise en charge dans ces structures sans créer des salles de shoot. Et donc je me suis positionné dans ce domaine. Donc et bien entendu, le Premier ministre est très sensible aux propos des uns et des autres. Et j'espère que aujourd'hui ce débat qui est ouvert ira un peu plus loin sur non pas une légalisation comme c'est préconisé par certains, voire même une dépénalisation partielle n'apportera pas la solution. Plus de prévention, plus de prise en charge, certes, mais pas une libéralisation.
Ok. Alors, dans le même temps, je vais me faire l'avocat du diable, qui n'en a pas besoin, mais on parle des prémix, on a évoqué un petit peu aussi, avant cette intervention à l'antenne, de la mise en garde des ados et des parents, surtout sur les prémix. Alors, comment sont constitués ce qu'on appelle les prémix?
Les industriels des boissons, alcoolisées ou sans alcool, ont les moyens de se payer les meilleurs chimistes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de fidéliser une clientèle, voire accélérer la consommation. Donc, si on prend, par exemple, des boissons énergétiques, que je citerai pas pour ne pas créer d'incident ou d'être poursuivi, mais vous connaissez tous certains prémix qui sont survitaminés, surdosés en extrait de caféine ou avec des extraits de plantes stimulantes, avec des variétés de sucre, donc aspartate travaillé en laboratoire pour stimuler les papilles. Ce qui veut dire que quand on prend cette boisson, on va provoquer, donc grâce à une stimulation liée au sens gustatif, enfin à nos papilles, on va provoquer un effet récompense au niveau du cerveau. Là encore, des produits psychostimulants qui passent par un des sens, simplement, et qui vont provoquer une mémorisation de ce petit effet, voire même stimuler les papilles au point que lorsqu'on a fini sa boisson, on a encore envie de boire. On a encore envie de
préférence
consommer.
La même boisson.
Et de préférence, bien sûr, la même boisson, puisqu'on est sur un peu le travail des arômes, le travail des effets sur les papilles. Donc, c'est la continuité. On l'a vu avec certaines bières travaillées en laboratoire, qui aujourd'hui touchent surtout les jeunes. Donc, on a travaillé le look, la couleur de la boîte, le vocabulaire. De 33 centilitres, on est passé à 50 centilitres. Et bien entendu, avec près de 6 degrés d'alcool.
Voire plus,
puisque aujourd'hui, les bières sont beaucoup plus dosées que ça. Donc, le fait d'ajouter de la vitamine C en grande quantité et des sucres et des arômes qui vont plutôt stimuler les papilles, on se retrouve avec des personnes qui sont dans la surconsommation. Une 50 centilitres de bière, quand on est à 12, 13 ans, 14 ans, avec cette boîte de bière à la main, c'est clair qu'en boire une deuxième, on est en ivresse. Et là encore, on facilite un peu la consommation par cette stimulation liée au prémix, liée aux additifs que l'on ajoute à ces boissons. Donc, reculer le seuil de la fatigue, puisque l'alcool, chez certains, ça va plutôt endormir. Le fait de mettre de la vitamine C, ça va faire exactement l'effet inverse. Dans d'autres boissons, on préconise plus la fête aussi avec ces produits. Et dans l'espace festif, prendre ces boissons énergisantes, ça permet de durer plus longtemps, mais surtout de consommer plus d'alcool. Et faire le petit mélange avec des alcools forts et ces boissons très sucrées fait que dans le verre, on ne ressent pas l'agressivité de l'alcool et on peut consommer plus. Simplement, quand ça passe dans le sang, c'est une charge massive d'alcool. C'est ce qu'on appelle le binge drinking chez beaucoup de jeunes. C'est-à-dire qu'une consommation trop importante d'alcool, quand la masse d'alcool passe dans le sang, on a des personnes qui vont à la limite du coma et faire du n'importe quoi ou subir surtout. Mmh. Et les filles se méfient pas trop, mais une fille qui boit c'est un peu ce mélange va... quelquefois sans être vraiment volontaire, subir des, notamment des attouchements ou des situations qui peuvent dégénérer sans avoir la capacité de réaction parce que l'alcool neutralise leur capacité. Donc aujourd'hui, on trouve tout ça au niveau scolaire avec donc des jeunes qui parlent un peu de leur consommation abusive ou festive du vendredi soir jusqu'au dimanche, où on fait la fête, mais...
Quel est l'impact, Jean-Paul, excusez-moi de vous interrompre, mais quel est l'impact sur le cerveau? Un cerveau d'un enfant, d'un adolescent de 14-15 ans n'est pas fini, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des risques majeurs, quand même, que ce soit avec le cannabis ou l'alcool?
Alors, ce sera un peu long de décrire tous les effets négatifs, bien sûr, de l'abus d'alcool, mais c'est une agression. Nos neurones sont assez fragiles, surtout quand on est adolescent. On n'est pas encore en période de maturation, donc tout notre système neuronal est en pleine mutation, en pleine transformation. Donc les neurones, quand il y a une trop forte charge d'alcool au niveau du sang, le cerveau étant 10 fois plus irrigué qu'un muscle, donc c'est la zone qui va recevoir le plus d'alcool, et quand nos neurones baignent dans l'alcool, il est clair que c'est une agression. Et cette agression, ça laisse des traces. On a beau être avec une capacité neuronale importante, mais cette destruction progressive chaque week-end sous effet des abus d'alcool fait que on va développer plus de troubles du comportement qu'un autre. Et l'addiction vient par la répétition de ces abus. C'est-à-dire que l'organisme va s'habituer à cette charge d'alcool.
Et on a l'impression. Il va réclamer à nouveau.
Il va réclamer à nouveau. Et puis c'est surtout qu'il va falloir augmenter les doses pour retourner.
Pour l'effet. Pour avoir le même effet.
Pour retourner à l'effet. D'accord. Donc, c'est un des dangers.
OK. Alors, Jean-Paul, Monsieur Bruno, il nous reste 5 minutes, en gros, avant de rendre l'antenne. Un conseil aux familles. Vous disiez aussi que vous accueillez des jeunes qui ont déjà commis quelques délits. Souvent, les parents sont perdus, ils sont impuissants, ils savent pas, ils ont un peu honte aussi. Finalement, ils ont un peu les mêmes émotions que l'addicté, enfin, la personne dépendante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour repérer dans la famille un enfant qui va commencer à disjoncter un peu, enfin, quels sont les signes avant-coureurs qui pourraient être utiles à nos auditeurs?
Alors, les signes, c'est surtout en termes de comportement, donc des troubles du comportement qui peuvent se traduire par plus d'agressivité, notamment quand on est sous effet de l'alcool, on sait qu'il y a une perturbation pendant, puisque on pète les plombs plus facilement, on est désinhibé, donc on ose parler à ses parents en face et voire même essayer de les contraindre parfois par la parole tout simplement, voire les agresser verbalement. Donc, ce que le jeune n'osait pas faire avant, sous effet de l'alcool ou du cannabis, c'est clair que ça débride. Le timide devient volubile, il va oser, il va parler d'une façon plus assurée. Mais c'est un peu le produit qui conditionne tout ça. Et puis, la descente de l'alcool, ce qu'on appelle la gueule de bois, ou en tout cas la phase de descente, que ce soit avec le cannabis qui donne des angoisses, qui donne un peu le côté parano, fait que on va être beaucoup plus agressif car perturbé. Et la moindre contrariété va être plutôt accélérée, voire démesurée chez certains.
La réaction, par exemple, à une recommandation du parent, ils vont se faire envoyer bouler ou...
Plus facilement, oui. Et quand on insiste un peu, notamment avec le cannabis qui s'accumule dans le cerveau, on sait qu'il y a un effet de relargage, surtout dans la première semaine, et je dirais même surtout dans les 48 heures qui suivent la consommation de plusieurs joints. Le stockage du THC dans les molécules graisseuses du cerveau, sous effet du stress, vont être relargués dans le sang. Et un jeune passif qu'on commence à enguirlander parce qu'il ne fait rien, il est plutôt passif ou il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire. Si on s'énerve, c'est sûr qu'on va créer chez lui un stress. Il va relarguer suffisamment de THC pour péter les plombs ou en tout cas passer à l'acte plus facilement sous effet alors qu'il était cool, passif. Donc c'est un perturbateur du système nerveux central. Quand je parle du cannabis, pour l'alcool, c'est plutôt l'effet dépresseur derrière. Donc on est moins bien dans sa tête, on est plutôt dans cette phase un peu de régression en termes de capacité de gestion de ses émotions. Donc c'est plutôt des troubles du comportement qui font qu'il faut en parler. Il faut un peu parler de ses consommations, ce qu'il demande au produit. Ma première question quand je reçois un jeune à l'association, c'est « qu'est-ce que tu demandes au produit ?» Alors ça c'est important et le parent peut entamer une conversation en parlant de la consommation, c'est pas un sujet tabou, et essayer de voir ce qu'il y a derrière. Soit c'est une recherche d'ivresse, une recherche de plaisir, alors il va falloir l'aider à trouver autrement ce plaisir, avec en utilisant tous ses sens, toutes ses capacités, toute sa sensibilité, mais... l'amener aussi à réfléchir à ses comportements de fuite. Par exemple, un jeune qui dit « j'ai besoin de mon petit joint pour dormir, sinon je suis mal avec ça, j'arrive pas à dormir, je suis angoissé ». Ce qu'il ne dit pas, c'est que les angoisses, c'est le lendemain, et tous les jours, ce sera toujours gérer ses angoisses avec le produit, mais elles seront toujours plus fortes. Mmh. Et le côté un peu parano qui fait que très vite, on va se trouver... des ennemis là où il n'y en a pas, et en particulier ses parents. Donc les parents sont souvent les boucs émissaires et vont très vite se retrouver dans la culpabilité parce qu'ils ne savent pas quoi faire pour sortir leur enfant. Donc c'est là où il faut que le parent ne s'isole pas, demande de l'aide, téléphone en tout cas. On a des bonnes adresses, on a des conseils à lui donner. Il faut surtout pas s'isoler avec sa culpabilité ou ce sentiment d'impuissance qui génère de la honte, de la peur et surtout de la colère parce qu'on se sent impuissant. Donc là encore, il faut réagir et surtout demander de l'aide.
Ok. Alors, vous avez la possibilité, bien entendu, de nous contacter après cette émission. Nous allons devoir quitter les studios assez rapidement, mais vous pouvez donc contacter Jean-Paul Bruno. On peut l'appeler sans modération au 06 09 21 26 92. C'est son portable direct. Vous l'aurez en direct. Si vous ne l'avez pas laissé, surtout un message avec vos coordonnées afin qu'il vous rappelle. 06 09 21 26 92. Et puis, à partir de lundi et toute la semaine, vous pouvez, bien sûr, appeler le DVO dans le Val-d'Oise. C'est le 01 34 28 64 50. 01 34 28 64 50. L'association est basée à Montmagny. Donc, c'est à trois stations derrière la gare du Nord. C'est assez facile d'accès. Et puis, je crois, Jean-Paul, qu'on peut visiter la structure si les gens peuvent accompagner leur enfant, leur adolescent, venir voir.
Tout à
fait. Ils ont des témoignages. Vous accueillez de plus en plus de jeunes gens, d'ailleurs.
Voilà. Et on les met souvent en contact avec nos pensionnaires. Et le récit de vie de ces pensionnaires fait réfléchir beaucoup de jeunes sur leur commencement les addictions.
Oui, il y a un effet pédagogique qui est très, très, très stimulant. Si j'ose dire. Mais écoutez, merci infiniment d'être venu, Jean-Paul Bruno. Vous pouvez aussi vous procurer l'émission en appelant Fréquence Protestante au 01 45 72 6000. 01 45 72 6000. Voilà, vous pouvez avoir le CD. On vous l'expédiera, moyennant une petite contribution de votre part. Et puis, sachez aussi que l'émission est podcastable pendant au moins un mois. Les 5 dernières émissions sont disponibles sur le net. Eh bien, écoutez, merci de votre écoute. Au mois prochain, et on attend vos appels. Vous pouvez aussi me contacter directement aussi si vous avez envie d'avoir des renseignements. On vous demande Jean-Pierre et mon numéro de téléphone 06 38 81 77 08 06 38 81 77 08. Merci.